Bonjour à tout le monde. C'est dommage que je ne peux pas m'avancer vers vous. J'ai l'impression d'être un peu loin ce matin. Mais bon, ce n'est pas très grave. Si vous avez vos Bibles, est-ce que vous pouvez trouver l'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 2? L'épître de Paul aux Philippiens. Et le chapitre 2. Nous allons parler de Timothée aujourd'hui. Pas celui qui prêche, mais celui qui est dans la Bible. Si vous notez dans le verset 19, lorsque nous avons parcouru, ça fait quelque temps déjà, jusqu'au verset 18, mais notez que dans le verset 19, il commence à parler de ses collègues. C'est pourquoi il y a ici une nouvelle section, une nouvelle partie de l'épître. Il parlait d'autre chose, maintenant il change un peu de sujet. Et il va parler de ses collègues, on peut dire, de ses coéquipiers. Et je vais lire à partir du verset 19. Philippiens, chapitre 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. Peut-être vous avez entendu parler du rendez-vous du carnet de voyage. C'est une manifestation qui a eu lieu chaque année dans la ville de Clermont-Ferrand. C'était un des profs à l'université qui m'en a parlé. Ça existe depuis l'an 2000. C'est organisé par l'association IFAV, qui veut dire « Il faut aller voir ». Et ça propose des expositions, des carnets de voyage, des rencontres, des conférences. Il y a des prix qui sont décernés chaque année. Et en fait, en France, le carnet de voyage est un genre littéraire qui devient, avec le récit du voyage, très populaire en France. Et nous avons ici ce qu'on vient de lire, ce qu'on pourrait appeler un carnet de voyage, dans un sens, de ces trois hommes différents qui comptent faire un voyage à Rome, en Italie, enfin, depuis Rome en Italie, jusqu'à la ville de Philippe, dans le royaume de Macédoine. Et donc, permettez-moi de vous les présenter d'abord dans l'ordre qu'ils apparaissent dans le texte, même si ce n'est pas l'ordre dans lequel ils comptent arriver à Philippe. D'abord, au verset 19, regardez-le, « J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, donc Timothée va venir bientôt. Il est l'un des trois qui doit visiter l'église. Puis notez le verset 24. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Donc Paul lui-même a cette confiance dans le Seigneur qui viendra, qui ira prochainement. Donc il y a Timothée, il y a Paul. Et puis notez le verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Alors, notez le passé composé. J'ai estimé nécessaire d'envoyer. Pourquoi pensez-vous que le verbe est dans le passé composé? C'est ce que les théologiens appellent un passé épistolaire, c'est-à-dire Paul écrit à partir de leur point de vue. Quand il a écrit, Épaphrodite n'était pas encore envoyé. Mais il va envoyer la, il va apporter la lettre elle-même. Il est un peu le facteur. Paul va envoyer cette lettre que nous lisons ce matin par les mains de, d'Épaphrodite. Et donc, quand il écrit depuis leur point de vue, c'est comme s'il est déjà arrivé. Donc, il y a ces trois hommes. Épaphrodite est le premier arrivé. Puis, plus tard, Timothée sera envoyé. Et Paul leur dit, en fait, quand il envisage d'envoyer Timothée, regardez le verset 23. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Ou j'espère vous l'envoyer dès que j'ai une vision plus claire de mes affaires. Dès que je comprends plus ce qui va m'arriver. Bon, c'est pas exactement de quoi il parlait, mais c'est quand même fort probable qu'il parlait de l'issue du verdict de son procès. Hein, il y a d'ici qui attendent l'issue d'un procès, le verdict d'un procès. Et vous vous souvenez que quand Paul a écrit cette lettre, il était en résidence surveillée, peut-être même à cette époque déjà incarcéré. Il n'est pas un homme libre. Et donc il attend pour voir ce qui va se passer dans sa vie. Et les options ne sont pas seulement entre la prison et la liberté, mais c'est entre la vie et la mort. Et en tout cas, Paul pensait être dans la providence de Dieu, libéré, afin de pouvoir les rendre visite lui-même. C'est pourquoi il dit, notez le verset 24 encore, « J'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. » Alors, est-ce qu'il était sûr qu'il allait pouvoir être libéré et visiter cette église? Je crois qu'il faut comprendre que ces plans ne sont pas des certitudes. Il est clair que les espoirs de l'apôtre sont soumis entièrement à la providence, à l'autorité divine de Dieu. C'est pourquoi il dit, regardez le verset 19, il le dit la même chose d'une autre façon. Il dit dans le verset 19 qu'il espère dans le Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Donc tous ces espoirs, tous ces désirs sont dans le domaine ou sous le contrôle de Jésus-Christ. Espérer dans le Seigneur, c'est reconnaître que Christ est celui qui contrôle toutes choses. Et donc, c'est à lui qu'il faut se soumettre. Et donc, il veut communiquer aux Philippiens que ces plans ne sont jamais formés strictement d'un point de vue humain, mais toujours soumis à l'autorité, à la volonté de Jésus-Christ. Je crois que c'est une belle façon de parler en tant que chrétien. Nous disons souvent, et c'est une bonne chose, si Dieu le veut, ou Dieu voulant, nous ferons ceci ou cela. Mais voici notre manière d'exprimer un désir sincère qui est à la fois soumis à la volonté de Dieu. Eh bien, j'espère dans le Seigneur de pouvoir faire ceci ou cela. Ça, c'est le désir de Paul. Donc, c'est Épaphrodite d'abord, puis Timothée, et enfin, Paul lui-même. Alors, quelqu'un dira, même si c'est la saison des voyages, hein, l'été, quelqu'un dira, mais à quoi ça sert d'avoir un itinéraire placé au beau milieu d'une épître inspirée? Quel avantage pour nous? Je comprends pourquoi il veut parler de l'exemple de Christ, comme il vient de faire plus tôt dans ce chapitre. Je comprends pourquoi il y a de telles exhortations que faites toutes choses sans murmure et sans dispute, comme il le fait quelques versets auparavant. Mais à quoi bon ce carnet de voyage qui date du 1er siècle pour quelqu'un qui vit dans le 21e siècle? Et il y a des gens pour qui ces événements et ces circonstances d'une époque lointaine font de l'écriture quelque chose de très déconnecté de leur vie. Et ils ne voient pas le lien entre leur vie parce que ça parle des choses qui sont passées il y a trop longtemps, il y a 20 siècles de cela déjà, ça n'a rien à faire avec aujourd'hui. Donc la Bible, vraiment, il n'y a pas de lien entre la Bible et le monde comme il existe aujourd'hui. Mais vous savez, pour moi, ces faits historiques, quand je regarde ces faits historiques, ça rend les écritures réelles, importantes, conséquentes, notables pour ma vie. Quand vous voyez la Bible, on peut dire, les Écritures en train de former, de changer les vies, enfin, on va dire la vie quotidienne des personnes à l'époque dont elle a été écrite, ça me dit qu'elle peut faire la même chose pour moi. Et donc, pour moi, ces détails historiques étoffent la théorie, la théologie de la Bible. Parce que Dieu ne nous dit pas seulement ce qu'il faut faire, mais il nous donne des exemples de ce que l'Évangile a fait dans d'autres. Donc je peux voir, enfin pas de mes yeux physiquement, mais je peux regarder les vies des autres et voir comment ils ont été influencés par les mêmes vérités que Dieu me donne et qu'il me présente dans sa parole. Donc pour moi, je suis heureux que dans l'Écriture, il n'y a pas seulement voilà, le plan du salut. Et les principes à suivre, et la théologie, mais aussi des exemples qui me démontrent, qui étoffent toute cette vérité pour que je puisse mieux la comprendre. Donc, je crois que si on prend ce texte dans son contexte, on trouve encore plus d'applications personnelles pour nous aujourd'hui. Paul, vous vous souvenez, avait dit juste avant, peut-être vous avez oublié, ça fait longtemps, mais il était en train de les exhorter de vivre une vie qui était digne de l'Évangile. Et il a donné Jésus-Christ comme l'exemple suprême à suivre, chapitre 2, verset 5. Et puis il parle de lui-même, je crois que c'est dans le verset 17, 18, qu'il est prêt à se donner comme une libation, comme une offrande, comme un sacrifice pour leur foi. Et maintenant, il leur parle de deux hommes qu'ils connaissent bien. Hein, deux hommes qui connaissent très bien, deux hommes non pas exemptés des soucis, des responsabilités de la vie quotidienne, mais qui, au milieu de leurs épreuves, au milieu de leur vie, au milieu de la difficulté de la vie, de la maladie même, il y a un de ces hommes qui se trouve au seuil de la mort. Il les démontre, il les donne comme des exemples aussi à suivre. Donc, Je suis convaincu que le désir de Paul en partageant ses itinéraires n'est pas simplement de dire voilà ce qui va se passer dans le futur ou ce que j'espère qu'il va se passer, mais d'amener ces hommes devant cette église pour qu'ils puissent voir et suivre ces exemples d'amour désintéressé et de l'amour de Jésus et pour son église. Donc je veux attirer votre attention sur l'homme mentionné en premier, pas le premier arrivé à Philippe, mais Timothée, et d'examiner pourquoi Paul l'a choisi comme son envoyé spécial. Pourquoi Timothée? Alors regardez encore le verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Et maintenant il va en parler. Afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici, en dehors de lui, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mais Timothée est différent. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Donc, il semblerait que Paul anticipe le fait que les Philippiens vont s'interroger de son choix d'envoyer Timothée. Timothée était présent à la fondation de cette église à Philippe, mais quand vous lisez le récit en Actes, vous vous souvenez peut-être, c'est Paul et Silas qui sont un peu les vedettes de l'histoire et du spectacle, et Timothée n'est même pas mentionné. On sait qu'il est là, parce qu'il a rejoint l'équipe juste avant. En fait, quand Paul a fondé l'église, Timothée venait de joindre l'équipe missionnaire. Si vous lisez le récit en Actes, c'est en Actes chapitre 16 et verset 3 que Timothée vient pour faire partie de l'équipe, et moins de 10 versets plus tard, il se trouve à Philippe. Donc, Timothée est tout nouveau sur la scène, on pourrait dire, et il semblerait aussi qu'il est un peu timide, un peu réticent par nature, Paul va l'encourager des années plus tard, quand il écrit la lettre à Timothée, d'être fort dans le Seigneur et de ne permettre à personne de le mépriser à cause de sa jeunesse. Donc, il avait probablement cette nature un peu timide, réticente. Et donc, pour une raison ou une autre, peut-être à cause de cette réticence et sa personnalité flegmatique et placide, Timothée, avec Luc, ont échappé à la raclée et à l'emprisonnement que Paul et Silas ont connu. Vous vous rappelez que c'était Paul et Silas qui ont été mis en prison, qui ont chanté « Le tremblement de terre est arrivé ». Et Timothée et Luc ont été épargnés, nous ne savons pas pourquoi, mais ils n'étaient pas au milieu de cette scène à Philippe. Donc, quelles que soient les raisons, Paul ressent la nécessité d'expliquer son choix de l'envoi de Timothée. Et ce faisant, il appelle leur attention sur au moins sept caractéristiques qui le démarquent et fait de lui un ministre exceptionnel. Le ministre qu'il était exceptionnel. Et donc c'est à ces caractéristiques que je veux attirer notre attention ce matin. La première chose, c'est que Timothée était fiable. Timothée était fiable. On va voir si je l'ai ici. C'est-à-dire, il était digne de confiance. Regardez le verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Bon, le premier, c'est implicite, même si ce n'est pas directement indiqué. Mais remarquez que, dans l'esprit de Paul, l'envoi de Timothée est comme si c'était fait. Il peut envoyer Timothée et sans doute il aura des nouvelles de comment va l'Église. C'est comme si la mission était accomplie et qu'il reçoit les nouvelles. J'espère l'envoyer afin que je puisse être encouragé. Timothée était fiable. Il savait que s'il l'envoyait sur cette mission, il allait accomplir sa mission et revenir avec les nouvelles qu'il cherchait. Est-ce que vous savez ce que Paul demandait à Timothée en lui demandant, en lui envoyant sur cette mission? Cela exigeait un voyage de près de 3000 kilomètres aller-retour. J'ai regardé sur le plan hier et j'ai trouvé que nous, ici à Bordeaux, nous sommes presque exactement à 100 kilomètres près, la même distance de Rome vers l'ouest que la ville de Philippe et de Rome vers l'est. Et donc, imaginez si on demandait à quelqu'un dans l'église de partir à pied de Pessac pour aller jusqu'à Rome et de chercher des nouvelles et de revenir à pied plusieurs mois plus tard pour nous donner des nouvelles. Même aujourd'hui, avec la sécurité que nous avons et avec les hôtels, qui est prêt à faire cela à pied? Imaginez à l'époque et les dangers qui existaient et les différents pays, même si c'était sous le contrôle de Rome, dont qu'il fallait traverser. Cela demandait beaucoup de Timothée, beaucoup de son temps, beaucoup d'argent sans doute, et beaucoup de peine. Et puis, ayant arrivé à Philippe, il devait pouvoir se réunir avec les dirigeants, rencontrer les membres, pouvoir sentir un peu comment les choses se passaient spirituellement dans l'église, et puis faire le voyage de retour pour amener ces nouvelles à Paul. Et donc, le fait que Paul confie à Timothée un tel périple ardu démontre sa confiance dans la fiabilité de Timothée. Vous savez, être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et nous devons tous nous comparer un peu ici à ce Timothée, c'est pas seulement avoir la bonne doctrine, mais c'est le caractère qui doit aussi être transformé pour que nous soyons fiables pour les ministères qu'on nous donne. Proverbe 26, verset 6 nous dit « Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. » Aussi en Proverbe, « Ceux que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, imaginez cela, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » Il y a des gens qui sont tout simplement paresseux. Et on ne peut pas faire confiance dans ces personnes d'accomplir leur mission à temps et comme il faut. Mais Proverbe 25, verset 13, nous dit comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, c'est-à-dire au bon moment, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Ça, c'était Timothée. Il était fiable. Il était un messager fidèle. Paul comptait sur Timothée de remplir fidèlement son devoir, mais aussi d'évaluer avec précision l'état de l'assemblée. Timothée est un homme, lorsqu'on lui confiait une mission, que ce soit à 1 km ou à 3000 km, il était prêt à le faire, on pouvait compter sur lui, il allait tout faire pour l'accomplir. Il était un homme qui était fiable. Et vous savez, sa fiabilité est quelque chose qui se démontre rapidement. Même à un jeune âge. Même pour les enfants, la fiabilité est quelque chose qui se démontre et que nous devons développer dans la grâce du Seigneur. Puis nous voyons deuxièmement que Timothée partageait les mêmes préoccupations que l'apôtre. Bon, avant de voir comment il partageait les mêmes préoccupations que l'apôtre Paul, on doit se poser la question, quelle était tout d'abord la préoccupation de l'apôtre? Alors, de quoi pensait Paul? De quoi se souciait Paul lui-même? Et nous voyons dans le verset 19 un double objectif pour son envoi de Timothée. D'abord, afin que les Philippiens puissent être encouragés, mais deuxièmement et surtout, afin que Paul lui-même puisse être encouragé. Regardez le verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même. » On pourrait le traduire « moi-même aussi ». En apprenant ce qui vous concerne. Donc c'est clair que l'accent est mis ici sur son propre encouragement. Alors avant de continuer, je vous pose cette question. À vous de répondre dans votre tête, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? Mais vous voyez ici les désirs les plus profonds du cœur de Paul. Paul écrit cette lettre enchaînée à un garde romain. Son propre sort, on l'a déjà dit, c'est entre la vie et la mort, est entre les mains d'un dictateur capricieux. Mais Paul, il va chercher son réconfort dans le bien-être de l'Église de Dieu, de ses frères et sœurs en Jésus-Christ. La seule chose qui va le consoler ou l'encourager de recevoir de bonnes nouvelles concernant le bien-être spirituel, on peut dire la santé spirituelle des membres de son Église. Même en prison, il va être encouragé de connaître ceci. Il ne l'a jamais lu pendant son vivant, puisqu'il est mort avant que Jean l'a écrit. Mais je crois qu'il aurait dit amen à ces paroles de Jean dans 2 Jean verset 4. « J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. » Jean était fort réjoui de trouver des enfants qui marchaient dans la vérité. Et Paul avait le même cœur, les mêmes désirs. Voilà ce qui le rendait heureux. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi un autre chrétien ou le pasteur se soucierait d'eux. Ils disent, bon, vous avez fait votre boulot, vous avez prêché, vous m'avez partagé quelque chose. Vous avez fait votre devoir, maintenant ne vous inquiétez pas de mon sort spirituel. Ça c'est à moi de voir tout seul devant le Seigneur. Et ce que ces gens ne réalisent pas, c'est que les émotions du pasteur ou de n'importe qui se donne à aider un autre spirituellement, que ces émotions peuvent réellement s'égayer ou se déprimer en fonction de leur progrès. Ils vont se réjouir quand la personne avance. Et ils peuvent même se déprimer quand ils restent apathiques. C'est comme un parent avec ses enfants. Il est content quand il voit que l'enfant avance et progresse. Il y a une progression dans le Seigneur. Et il est triste jusqu'à la maladie des fois quand il voit la rébellion dans ses enfants. Et ce phénomène n'est pas quelque chose qui se produit seulement ici sur terre, mais notez le verset 16, et vous verrez que le progrès du peuple aura une incidence sur la joie du pasteur, même dans le jour de Christ. Il dit, il est porté la parole de vie afin que je puisse me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et donc ce mot encourager, Je parle du verset 19, vous voyez, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Signifie d'avoir la santé de l'âme. Je veux avoir la santé, je veux être en bonne santé dans mon âme. Et il y a un sens dans lequel la santé de l'âme du pasteur ou de celui qui aide un autre chrétien est lié et dépend de la condition spirituelle de tous ceux qui sont confiés à sa charge. J'ai trouvé cela de Spurgeon qui exhortait son peuple à venir à la réunion de prière. Il a ouvert son cœur et il a dit ceci une fois. Il a dit « Rien ne déprime l'esprit du pasteur comme l'absence des membres de l'Église des assemblées publiques pour la prière. » Et si quelque chose pouvait lui fortifier dans le Seigneur et lui donner du courage pour aller de l'avant dans l'œuvre du Seigneur, ce serait si vous étiez tous prêts à faire de la réunion de prière votre délice. Voilà, Paul c'est un peu le même esprit ici. Il dit, je veux m'informer de votre condition afin que je puisse être encouragé. Votre progrès c'est ma joie. Et donc je souligne ceci simplement parce que Paul le dit si ouvertement, mais si vous demandez à n'importe quel pasteur qui fait vraiment son ministère ou quelqu'un d'autre qui travaille avec d'autres chrétiens, vous allez voir que leurs émotions sont liées au progrès de ceux parmi lesquels ils travaillent, des membres de son Église. Et vous ne voudriez pas qu'il en soit autrement. Vous ne voudriez pas qu'il soit... que le pasteur puisse être content comme moi, je n'avance pas avec le Seigneur. Qu'il reste indifférent comme moi, je reste indifférent aux choses du Seigneur. Vous-même ne pouvez pas aider un autre tout en restant indifférent face à leur progrès. Pour aider un autre, il faut vraiment entrer dans la vie de cette personne pour connaître les joies et les douleurs, les tristesses, ainsi que les encouragements qui vont venir liés au progrès de cette personne. Alors Paul, il est désiré d'être encouragé, d'être consolé en s'informant de leur condition spirituelle. Il a besoin de quelqu'un en qui il peut se fier, en qui il peut faire confiance pour faire l'aller-retour jusqu'à Philippe, pour chercher des nouvelles, pour revenir avec un compte rendu, un rapport d'enquête si vous voulez, et il choisit Timothée. Et pourquoi Timothée? Parce que Timothée partageait ces mêmes préoccupations. Nous avons vu ce qu'étaient les préoccupations de l'apôtre, mais Timothée partageait les mêmes préoccupations que l'apôtre. Regardez le verset 20, il le dit. Car je n'ai personne ici, et dans le contexte c'est clair qu'il parle, sauf pour lui, hein, sauf pour Timothée, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Bon, bien évidemment, il ne parle pas dans l'absolu. Parce qu'il y avait d'autres compagnons dont il a vanté les mérites, comme Luc, comme Aquila. Mais il parle de ceux qui sont actuellement avec lui à Rome et disponibles. Mais même lorsque nous enlevons... nous l'en exclut certains des fidèles compagnons de Paul qui étaient indisponibles à l'époque, c'est quand même une déclaration qui donne à réfléchir. Il n'y a personne. L'église à Rome était quand même une grande église. Et pourtant, il semble, d'après quelques endroits dans la lettre, que Paul était déçu avec une grande majorité de l'assemblée. Je n'ai personne ici à Rome qui partage mes sentiments. Ça, c'est un mot composé, traduit partage mes sentiments. Le premier des deux mots signifie comme ou le même ou l'équivalent. Et le deuxième mot, c'est le mot âme, qui a, on va dire, la même âme, ou qui a une âme équivalente à la mienne, une âme égale. Je n'ai personne ici qui a une âme égale, qui est une âme sœur. J'espère. Dans le Seigneur, il dit dans le verset 19, « Vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc, il avait à cœur leur bien-être. Et donc, je vais envoyer Timothée, parce qu'il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ceux qui vous concernent. Je pense que Paul dit tout simplement qu'il n'y avait que Timothée qui partageait les mêmes préoccupations que lui. Seul Timothée partageait le même esprit, il avait la même âme que l'apôtre. Il ne connaissait aucun autre qui avait une âme sœur dans ce sens. Je me soucie de votre bien-être et je vous envoie Timothée parce qu'il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments, se soucier sincèrement de ceux qui vous concernent. Et c'est difficile, n'est-ce pas? On le comprend. Si on pense aux chrétiens qui sont à Rome aujourd'hui même, on ne connaît même pas les églises là-bas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. On est tellement pris avec nos propres vies et nos propres difficultés que de se soucier vraiment des chrétiens en Bulgarie, par exemple, ou des chrétiens en Afrique, ou des chrétiens même à l'autre côté de la ville, dans les églises sœurs, c'est pas dans notre nature de se soucier avec... pour des gens que nous n'allons pas côtoyer tous les jours. On est déjà trop occupés nous-mêmes. Nous ne sommes pas mieux que les Romains. Et donc Paul, en cherchant quelqu'un, a trouvé en Timothée un fidèle disciple qui pouvait envoyer et qui pouvait revenir. Il dit, j'espère vous envoyer bientôt Timothée. Paul avait dit aux Corinthiens, je vais voir si j'ai voilà, le passage ici, quelques années auparavant, il avait dit, je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Vous savez, le but de celui qui veut créer, qui veut faire des disciples, comme Jésus nous dit de le faire, est de reproduire le maître dans le disciple. Et Timothée était un disciple tellement fidèle que son psychisme tout entier était presque une reproduction de Paul, comme nous voyons ici. Comment allait-il leur rappeler des voies de Paul? Il dit, je veux que vous soyez mes imitateurs, et donc pour cela, je vous envoie Timothée. Il va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Comment est-ce qu'il allait leur rappeler les voies de Paul en Christ? Non seulement par son enseignement, une fois, deux fois, cinq fois par semaine, mais je crois par son propre esprit, par sa pensée, par ses mœurs. Chaque fois que vous auriez vu Timothée, vous auriez pensé à Paul. Pas dans les particularités, en fait. Ça c'est le plus facile à prendre d'une autre personne. On entend quelqu'un prêcher, et puis on va prêcher de la même manière qu'eux. C'est pas forcément une bonne chose de faire cela. Mais je crois qu'il parle de sa maturité, de sa pensée, de ses valeurs. Paul pouvait parler de Timothée en disant, en ce qui concerne le bien-être des églises, il est une âme sœur avec moi. Alors, pouvons-nous dire que nous pensons que nous raisonnons comme l'apôtre Paul? Et puis nous voyons troisièmement que Timothée était sincère dans sa préoccupation. Non seulement est-ce qu'il partageait les mêmes préoccupations que Paul, mais dans ses préoccupations, il était sincère. C'est dans le verset 20. Regardez-le. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, c'est ce que nous venons de voir, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Paul dit, je n'ai pas d'autre homme comme lui. Lui seul est une âme sœur avec moi en ce sens que je sais qu'il va sincèrement prendre à cœur votre état. Timothée était sincère dans sa préoccupation. Ce n'était pas simulé, ce n'était pas contrefait. Ce verbe « sincèrement » décrivait une personne qui était légitime, pas d'une naissance faussée ou illégitime. Et cette préoccupation de Timothée exprimait comme personne d'autre, mais elle venait du fond d'une âme qui avait une préoccupation sincère, non simulée. Ce n'était pas singé, comme souvent. Hein, on peut dire, oh mon frère, je prie pour toi, je pense à toi tous les jours. Oh, que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Oh, je sais que c'est difficile. Oh, ça me fait mal au cœur. Blablabla, on peut continuer comme ça. Et on s'en va et on ne pense même plus à la personne. Timothée était le vrai de vrai, comme on dit. Et le mot traduit « prendre à cœur » dans le verset 20, « prendre à cœur votre situation », c'est un mot fort. C'est le mot utilisé dans le chapitre 4, verset 6, où il dit « ne vous... » connaissez le verbe ?« Ne vous inquiétez de rien. » D'accord ? Bon, il y a un contexte dans lequel il ne faut pas s'inquiéter, mais quand ça a à faire avec le bien-être, Paul, Timothée était sincèrement inquiété dans le bon sens pour ces gens. Il se souciait vraiment de leur bien-être. Alors, ça c'est un défi pour nous aujourd'hui, dans une époque où les mots ne coûtent pas cher, n'est-ce pas? Et les gens peuvent, des fois, ils acceptent même pas, ils sont choqués de savoir que quelqu'un pourrait sincèrement se soucier de leur âme. Je parle même des non-croyants. Ils vous voient et ils vous voient que sincèrement, vous les avez comme amis, pas simplement parce que vous avez besoin d'amis, mais parce que vous, sincèrement, vous êtes préoccupé par leur état, par leur bien-être physique aussi, mais surtout spirituel. Et quand les gens voient cela, ils sont surpris parce qu'on ne voit pas ça dans le monde. On voit quelqu'un qui veut bien donner un sou, on voit quelqu'un qui veut bien être ami, tant que ça m'arrange à moi, qui veut bien me marier des fois, mais après quelques années, il va partir ou elle va partir. Même les mariages ne durent pas. Et si les mariages ne durent pas, c'est normal que les amitiés dans le monde ne durent pas. Mais Timothée avait cette préoccupation sincère pour les gens. Nous devons demander à Dieu de faire croître cela. Il a déjà dit, Paul a déjà dit aux Philippiens, ne pensez pas seulement à vos propres affaires, mais pensez aussi à ceux des autres. Timothée était fiable, il partageait les mêmes préoccupations que l'apôtre, il était sincère dans sa préoccupation. Il était résolu dans sa quête des intérêts de Jésus-Christ. Il était résolu dans sa quête. Regardez le verset 21. Tous. Vous y êtes? Philippiens 2, 21. C'est-à-dire tous sauf Timothée. En effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Bon. Là, je crois que nous arrivons au cœur de la question. Et une fois de plus, nous avons le coup effrayant du mot tous. Et nous n'avons pas d'informations pour dire exactement de qui il parle, mais ce n'est certainement pas borné au monde perdu autour de lui. Ce tous englobait sans doute des épouses, des mères chrétiennes autour de lui, des maris, des pères, des célibataires, des dirigeants des églises. Et Paul doit dire de ces chrétiens, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben ça, c'est votre quête dans la vie. Timothée était résolu dans sa quête. Paul utilise ce même mot, chercher, en Colossiens chapitre 3, verset 1, quand il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce que Timothée a fait. Il cherchait sincèrement les intérêts de Jésus-Christ. Jésus a utilisé ce même mot en Matthieu 6, 33, quand il a dit « Cherchez premièrement, c'est-à-dire avant tout, comme priorité, le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Il cherchait, il était résolu dans sa quête des intérêts de Jésus-Christ. Et c'est ça qui rend n'importe quel ministère, le plus petit ou le plus grand dans l'Église, si dangereux, parce qu'on peut le faire avec un double esprit, comme on dit. On peut le faire dans l'hypocrisie. On penserait qu'un homme ou une femme engagée dans dans un service pour l'Église ou pour Dieu ne peuvent que le faire pour des motifs purs et sincères. Après tout, pourquoi serait-elle si fidèle dans l'exercice de ses fonctions si elle n'est pas sincère? Pourtant, la chose effrayante, c'est qu'à l'extérieur, vous pouvez être à la poursuite des intérêts de Jésus-Christ, et puis à l'intérieur, à la poursuite de nos propres intérêts. Vous pouvez même imaginer cela, j'aurais presque pas cru si ce n'était pas dans la Bible, vous pouvez même prêcher l'Évangile par envie et par dispute. Regardez le Philippiens chapitre 1, une page à tourner, le chapitre 1 en Philippiens, verset 15, regardez ce qu'il dit, quelques-uns, il est vrai, comme si on allait le douter quand même, Paul, c'est pas vrai, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute. Bon, ça fait quelques années, mais j'ai entendu le témoignage d'une église ici en France où il y avait deux pasteurs. Et à tour de rôle, ils prêchaient tous les 15 jours. Et ils prêchaient l'un contre l'autre. Le premier prêchait et puis le deuxième, et ils se contredisaient. Et c'était clair que leurs remarques étaient visées l'un vers l'autre dans les prédications. Ça se fait, malheureusement, ça se fait. Et si vous pouvez prêcher l'Évangile à vos propres fins, eh bien, vous pouvez faire tout autre type de ministère pour ces mêmes fins égoïstes. Alors, quel est le ministère que Dieu vous a confié? Cherchez-vous vos propres intérêts ou êtes-vous résolu dans votre quête des intérêts de Jésus-Christ? La question n'est pas êtes-vous parfait dans vos actions, mais êtes-vous résolu dans votre quête de chercher les intérêts de Jésus-Christ. Et une façon de vous tester, c'est de savoir, voilà, est-ce que vous cherchez véritablement le royaume de Dieu, les choses d'en haut. Timothée était fiable, il partageait les mêmes préoccupations que l'apôtre, il était sincère dans ses préoccupations, il était résolu dans sa quête des choses, des intérêts de Jésus-Christ. Et puis nous voyons aussi dans le verset 22, Timothée était humble dans sa manière de faire. Timothée avait une réputation prouvée. En fait, je vais faire le 5 là, rapidement, et puis le 6. Timothée avait une réputation prouvée ou testée. Regardez le verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Donc, bien que les Philippiens aient besoin qu'on leur rappelle de certaines choses concernant Timothée, ce n'était que cela, un rappel. Ils pouvaient se souvenir de sa valeur prouvée et reconnue. Ce mot « mise à l'épreuve », vous le voyez dans le verset 22, c'est utilisé que cette fois, je crois, dans le Nouveau Testament, et ça englobe les deux idées du processus et du résultat de l'examen. C'est-à-dire, il y a un test qui se fait, il y a une épreuve qui se fait, et puis le résultat, c'est que elle est maintenant éprouvée. Mais pour qu'une personne soit éprouvée, elle faut passer d'abord par l'épreuve, n'est-ce pas? Donc il y a ces deux idées. Passer par l'épreuve pour sortir de l'autre côté éprouvé, mis à l'épreuve. Bon, peut-être Timothée n'était pas battu et mis en prison avec Paul à Philippe, mais Timothée avait témoigné la lapidation de Paul dans sa ville natale. Il avait été le compagnon de Paul presque sans interruption depuis près de 12 ans. Il a été avec Paul et Silas quand ils ont été chassés hors de Thessalonique. Il a été laissé dans la ville de Bérée avec Silas lorsque Paul fut contraint de fuir dans la nuit. Après avoir rejoint finalement Paul à Corinthe, où Paul se trouvait à l'époque, il est renvoyé seul dans la ville de Thessalonique, qui était une situation très très dangereuse, parce qu'eux-mêmes ils étaient chassés de la ville. Plus tard, d'Éphèse, il est envoyé seul pour gérer des problèmes à l'église de Corinthe. Vous pouvez imaginer le défi que c'était de faire cela. Il a accompagné Paul à Jérusalem avec le don d'argent qu'il voulait donner au sein de cette ville. Et puis, il est resté fidèlement à ses côtés pendant 4 longues années d'emprisonnement. Il était là pour aider Paul. Donc, il avait une valeur prouvée. Et je dis cela simplement pour nous dire, pour nous rappeler à moi aussi, que Dieu nous permet de passer par certaines épreuves, simplement pour nous donner des fois une valeur à prouver. Pour, on va dire, pour ajouter à notre CV spirituel. Il va y avoir un moment, peut-être, dans la vie de l'Église, ou dans la vie d'une famille, ou dans la vie d'une personne, où ils vont chercher quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance. Quelqu'un qui savent par leur vie qu'ils ont été eux-mêmes éprouvés, testés, qu'ils sont sincères, et donc, ils vont vous trouver, parce que vous avez été déjà préparé pour ce ministère. Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi l'argent n'est pas là pour payer les factures. Peut-être Dieu est en train de vous permettre de vous prouver vous-même. Pensez-y de cette façon. Vous démontrez votre valeur. Et certains d'entre nous, les hommes, ont besoin de nous prouver face à nos épouses. Prouver à nos épouses que nous pouvons rester forts dans le Seigneur, pas céder au moment crucial pour qu'elles puissent faire confiance en nous. Les parents doivent se prouver dans des difficultés devant leurs enfants. Et chaque personne qui va être utilisée par Dieu doit être prouvée pour pouvoir être testée et approuvée par les autres. Il dit, vous savez, c'est besoin que l'Église de Dieu sache que nous avons été mis à l'épreuve dans ces choses, que nous avons tenu bon jusqu'à la fin de l'épreuve. Et Timothée était une de ces personnes. Et puis Timothée était numéro 6, humble dans sa manière de faire. Il ne portait pas des airs dans sa façon de travailler. Regardez le verset 22. Il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant, comme un fils, avec son père. Alors, songez à cela un peu. Comment a-t-il travaillé avec Paul pendant 12 ans? 12 ans! Comme un enfant avec son père. L'image ici d'être un fils qui travaille à côté de son père pour apprendre le métier familial. Et Timothée faisait partie de l'équipe depuis presque 12 ans. Et pourtant, il est toujours l'assistant, on va dire. En fait, Timothée vécut toute sa vie dans l'ombre d'un autre homme. Pour beaucoup de gens, il n'a jamais été plus que l'acolyte ou l'adjoint de Paul. Et pourtant, il accepte volontiers sa position de soumission par rapport à ce qu'était Paul. Paul dit aux Thessaloniciens, il a dit, il m'a semblé bon d'envoyer Timothée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Timothée. Il l'a envoyé à Corinthe sur une mission, je l'ai dit. Ici à Philippe, plus tard à Éphèse. Il est toujours en train d'être envoyé faire une commission à la demande d'un autre homme. Et on pourrait s'attendre à ceux qui disent, bon, trop c'est trop, est-ce que j'ai pas un mot à dire? Il était prêt toute sa vie à jouer le rôle d'un fils avec son père. C'est l'humilité. Il était humble parce qu'il était résolu dans sa quête. Il y a des gens qui refusent, parce que je connais cela même dans mon propre cœur, ils vont refuser de faire certaines choses simplement à cause de la personne qui leur a demandé la chose. Bon, de peur d'être mal compris, je veux souligner que Paul utilisait cette expression comme un fils avec son père, non d'une façon humiliante, mais en termes d'affection. Paul avait beaucoup d'affection pour Timothée. Il l'aimait beaucoup, il rendait hommage en fait, en disant qu'il le considérait comme un fils. Mais cela nous amène à notre dernière qualité que nous voyons dans cet homme. Timothée était inébranlable au service de l'Évangile. J'ai eu du mal à trouver le bon mot. J'ai terminé par choisir inébranlable. Vous pourriez peut-être trouver un meilleur mot. Regardez le verset 22 encore. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. En se consacrant au service de l'évangile avec moi. Depuis 12 ans, il avait suivi l'apôtre Paul dans tous ses périples. Ça, c'est déjà un exploit. Hein? Et quand c'était pour la cause de l'évangile, il était infatigable, c'est-à-dire il ne cédait pas à la fatigue. Il se consacrait au service. Ça signifie devenir un esclave. C'est le mot lié au doulos, esclave. Et l'accent ici, il était sensible à la volonté d'un autre. Hein? Il se consacre à l'évangile. Il soumet sa volonté à la volonté d'une autre personne ou d'une autre cause, la cause de l'évangile. Un esclave était sous le contrôle total de son souverain, de son maître. Et dans notre société d'aujourd'hui, où chacun vit à sa guise, nous n'aimons pas cet aspect de la servitude. Nous n'aimons pas nous soumettre ou soumettre nos volontés à un autre. Et donc, si je trouve que la limite de vitesse est trop lente, je ne fais que l'ignorer. Si je trouve que mes parents sont trop stricts, je fais qu'aller simplement, je vais faire la chose dans leur dos. Pourquoi ? Parce que le plus grand bien, c'est que ma volonté soit faite. Et nous faisons de notre pensée, de notre volonté, le souverain, au lieu de servir comme esclave celui d'un autre. Mais Timothée l'a fait pour la cause de l'évangile. Et c'est exactement ce à quoi Paul les appelle en chapitre 1, verset 27, où il leur dit « Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile ». Timothée s'est consacré au service de l'Évangile. Vous voyez ce que la grandeur de l'Évangile ici ? Prêcher l'Évangile, c'est quoi ? L'Évangile fait quelque chose en nous. Elle fait tout, elle nous sauve, elle nous transforme. Mais elle ne fait pas simplement quelque chose pour nous en nous justifiant Jésus-Christ. Elle fait quelque chose en nous et elle fait quelque chose à travers nous. Et donc nous prenons ce salut, il vient de le dire quelques versets auparavant, que Dieu nous donne et puis il dit travaillez à ce salut. Œuvrez à ce salut. Et prenez cet évangile et permettez la bonne nouvelle et l'œuvre de Jésus-Christ en vous de vous transformer, de vous changer. Ne restez pas à la rentrée en septembre la même personne que vous étiez à la fin de juin ou au début de juillet, au début de l'été. Que l'évangile nous change, qu'elle nous transforme et que nous puissions prendre des exemples comme Timothée. Et les suivre, car ils suivaient eux-mêmes Jésus-Christ. Vous savez, le fait d'être pasteur ou non n'a guère d'importance ici. La raison pour laquelle vous êtes sur terre, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. Alors, est-ce que nous voulons faire partie de la compagnie qui, à travers les âges, ont travaillé pour l'avancement de l'Évangile ? Voulons-nous faire un effort même cette semaine, dans la puissance de l'Esprit, pour faire avancer sa cause ? Voulons-nous prendre véritablement à cœur le bien-être de ceux qui s'entourent de nous, les frères et sœurs en Christ et ceux qui ne sont pas encore frères ou sœurs? Sommes-nous prêts à être comme Timothée en Philippiens chapitre 2? Que Dieu nous aide à le faire. Prions. Seigneur, je confesse mes chutes et mes lacunes et la grande distance entre moi et l'exemple que nous venons de voir. Et nous voulons tous confesser nos péchés ce matin. Nous te remercions que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et que ce ne dépend pas de nos œuvres. Et pour cela, nous pouvons avoir la confiance d'être en bonne relation avec toi. Et nous voulons avancer. Nous voulons progresser. Nous voulons travailler à notre salut. Et par ton esprit, tu as inspiré quelques versets après nous avoir dit de travailler notre salut, tu nous as donné un exemple de ce que ce serait. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Aide-nous, Seigneur, à prendre ces choses à cœur. Aide nos jeunes qui sont ici, les ados qui sont présents, et même les pré-ados. Et puis, chaque individu à le prendre sincèrement à cœur pour être une personne sincère comme était Timothée. C'est pour notre bien, mais c'est pour ta gloire que nous prions ces choses. Et c'est dans le nom et la justice et les mérites de Jésus-Christ que nous prions ces choses. Amen.